France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'enlèvement de Joséphine, la fille de San Antonio. Dans la vie, il faut être riche ou bachelier, écrivait Frédéric Dard, qui n'avait pas le bac. Alors le romancier est devenu riche. Il a écrit 288 livres, dont 183 San Antonio, la série qui lui a apporté l'aisance financière. Mais le succès de ses romans de gare, comme on disait alors, a son revers. Il aiguise l'appétit des apôtres de l'argent facile, peu regardant sur les moyens de capter un morceau de la fortune de l'écrivain. Ainsi, le 23 mars 83, un homme s'introduit dans sa maison familiale de la banlieue de Genève. En pleine nuit, il enlève la fille de Frédéric et Françoise Dard et exige une rançon de 2 millions de francs suisses. Le couple paie et Joséphine est retrouvée vivante 50 heures après son enlèvement. Circonstance malheureuse, au moment où sa fille est enlevée, Frédéric Dard écrit un nouveau roman qui raconte le kidnapping de la fille d'un écrivain retiré en Suisse. Troublant. Notre invité aujourd'hui, Éric Bouillet, auteur du Dictionnaire amoureux de San Antonio, paru en 2017 chez Plon. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire et rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Stéphane Côm.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Mercredi matin 23, nous avons été informés que une enfant d'une douzaine d'années, la fille de Monsieur Frédéric Dard, le romancier bien connu, avait été enlevée. Sur place, nous avons constaté que la petite fille était couchée dans une chambre du premier étage et que durant la nuit, un ou des ravisseurs y avaient pénétré par la fenêtre et très certainement l'avaient emmenée par le même chemin.
La petite fille dont parle le commissaire de la police genevoise sur les ondes de la télévision suisse romande s'appelle Joséphine. Elle a 12 ans. Le 22 mars 1983, comme tous les soirs, elle remonte sur elle la couette blanche ornée de gris, de petits motifs que l'on retrouve aussi sur les murs et les rideaux. Dans le prolongement du lit, un petit canapé rose placé en face de la fenêtre fermée par des volets bleus. Sa chambre est au premier étage de cette belle maison de Vendeuvre, à 5 km de Genève. Le 23 mars, à 6h45, Françoise réveille Joséphine. Au sol, traîne une chemise de nuit tachée de sang. Sur le lit, se souvient Frédéric Dard, un drap souillé de façon abominable, ce qui nous faisait tout craindre. D'autant que la fenêtre a été forcée, les volets ont été fracturés et une échelle est posée contre la façade. Comprenant que Joséphine a été enlevée, ses parents tombent à genoux, sans force, prostrés. Sur la table de nuit, un mot, dactylographié en majuscule. Tu reverras ta fille seulement si tu fermes ta gueule. Rien dans la presse et pas de flic dans la combine. Tu prépares 2000 tickets de 1000 francs suisses usagés dans un délai d'une semaine. Joséphine contre 2 millions de francs suisses. L'écrivain ne réfléchit même pas, il paiera. Le couple vient de vendre un chalet, l'argent est là, il n'y a aucune question à se poser. On peut aisément imaginer la culpabilité des parents. Leur chambre est à côté de celle de leur fille, mais ni Françoise ni Frédéric n'ont rien entendu. Et pour l'écrivain, il y a une douleur de plus. Ou du moins une incompréhension, une stupeur, une sidération supplémentaire. Car en ce moment, sur sa machine à écrire, il aligne les mots d'un nouveau roman. Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches? L'histoire? Un écrivain populaire à succès remonte sa vie, son enfance, ses doutes, paisiblement installé avec sa famille dans un chalet suisse. Jusqu'au jour où sa fille Dora, 12 ans, est enlevée. Il arrive donc à Frédéric Dard ce qu'il est en train d'écrire, incroyable mise en abîme. 5 ans plus tard, sur France Culture, il raconte.
J'ai été absolument terrifié, comme si j'avais déclenché la foudre quelque part, vous voyez ? Comme s'il y avait le malin, comme on appelait autrefois, vous voyez ? Parce que depuis longtemps, je sais pas, j'appréhendais. Je me souviens de professeurs qui me disaient « Mais pourquoi vous amenez toujours votre fille tout le temps à l'école et vous venez la chercher scrupuleusement toujours ?» Toujours, elle commençait à être grandette. Elle avait 11 ans, je crois quoi. C'était peu de temps avant. Et je disais, mais je sais pas, j'ai peur qu'elle se fasse enlever. Il y avait une espèce de crainte, vous voyez. Je sais pas si on peut parler de prémonition. Mais enfin, je serais quand même toute ma vie troublé par ça.
Jusqu'à sa mort, en effet, Frédéric Dard restera troublé, comme il dit, par cet épisode de sa vie. Dans cette même série d'entretiens intitulée Frédéric Dard, l'intranquille, il confie. Mes romans qui ont succédé à cette période sont différents des autres. Je me suis dit, c'est une chose qui ne finira vraiment jamais. C'est comme un cancer, par exemple. Quand il y a une rémission, on a encore la maladie, on la traîne, on la colmate. Mais il n'y a pas de vraie guérison. Dans la maison de Vandœuvre, Frédéric veut appeler la police. Françoise, elle, hésite. Mais il insiste. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas deux. Il appelle d'abord un ami, le patron de la TSR, la télévision suisse romande, qui promet d'abord de ne pas ébruiter l'information. Et qui ensuite prévient discrètement la police. Qui arrive tout aussi discrètement sur les lieux. C'est le temps des premières constatations, des premières dépositions, des premières consignes des enquêteurs. Frédéric Dard écoute, mais ressasse. Il a attiré la foudre avec son histoire d'écrivain, là, dont l'enfant est enlevé. Et autour du téléphone, tout le monde attend que le ravisseur prenne contact avec le romancier, qui, en 83, a déjà dépassé les 100 millions de livres vendus. Et pour cause. Chaque exemplaire de la série des San Antonio tire à 500 000 exemplaires minimum. Il en a déjà écrit une centaine, et en pond 4 par an.
Du plomb dans les tripes, des dragées sans baptême.
Prenez-en de la graine, fleur de nave, vinaigrette.
Pour moi, du sirop pour les
guêpes. Mangez tais-toi.
San Antonio chez les Mac.
Bravo, docteur Beru.
Vas-y, Beru.
Ma langue au chat.
Remets ton slip gondolier. Chérie, passe-moi tes microbes. Une banane dans l'oreille.
Le cou du père François.
La vie privée de Walter Closet.
Concerto pour porte-chartel.
Mon culte sur la commode.
Valsé, Poufias.
Vol au-dessus d'un nid de cocu.
On liquide et on
s'en va. Si ma tante en avait.
Bon baiser, où tu sais.
Turlute gratos, séjour férié.
Déguster gourmande.
Le gala des emplumés.
N'en jetez plus.
Ceci est bien une pipe.
Quand sa fille Joséphine est enlevée, le romancier a 52 ans. Il est un auteur populaire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui commence aussi à être estimé des écrivains et des universitaires. Certes, il n'a pas l'aura intello d'une Nathalie Sarraute ou d'un Philippe Solers, mais Jacques Chancel vient de lui consacrer un de ses grands échiquiers. Et puis, Cocteau a dit un jour, « San Antonio, c'est l'écriture en relief, un aveugle pourrait le lire avec la peau des doigts. » Cocteau dit bien, « San Antonio, vous avez remarqué, pas Frédéric Dard. » Parce que voilà déjà des années que le nom de Dard n'est plus sur la couverture. Tous ses livres sont désormais signés San Antonio, même ceux qui n'appartiennent pas à la série qui lui a apporté le succès, après des années, comme il dit, où là, il a crevé la faim. L'histoire de Frédéric Dard commence en 1921 dans le Nord-Isère, à Bourgoin-Jallieu. Son père est ouvrier métallurgiste, grande gueule et chaud lapin. Sa mère travaille dans le café-boulangerie paternel. Frédéric grandit en élève médiocre. Il préfère laisser son esprit divaguer. D'instinct, écrit son ami François Rivière dans le livre qu'il lui a consacré, Frédéric perçoit les aspects ridicules des gens qui l'entourent. Les maîtres, les camarades, les voisins sont la cible de ses railleries de gamin précoce. Rien, en tout cas, ne dérange ni ne dépasse une existence qui ne l'exalte guère. Oh, il y a bien les frasques du père ou l'achat d'une voiture pour imprimer des souvenirs dans la tête de l'enfant. Mais finalement, lui n'est qu'un gamin aux yeux bleus qui fait tout pour camoufler un bras gauche inerte, une séquelle de l'accouchement. Le premier événement qui le marque vraiment se produit peu après la crise de 29. Le père de Frédéric est alors patron d'une entreprise de chauffage, une quinzaine d'employés. Mais plutôt que baisser son train de vie quand baissent les commandes, il continue à faire comme si de rien n'était. Alors, des salariés sont licenciés. La fourgonnette de la société est vendue, tout comme la voiture. Les Dard empruntent des petites sommes d'argent, ici et là. Il y a un parfum de honte dans la maisonnée. Et puis c'est fatal, les huissiers arrivent. Il faut donc rembourser. Alors le mobilier des Dard est vendu aux enchères, sous les yeux du petit Frédéric, caché au grenier.
La chose qui m'a le plus marqué, c'est, j'ai une sœur qui avait 8 ans de moins que moi, donc elle était tout à fait bébé. Oui, je devais avoir à peu près 9-10 ans, vous voyez. Mmh. Et elle avait un petit fauteuil d'osier, comme on faisait à l'époque, un tout petit fauteuil, vous savez. Et je me rappelle que ce fauteuil a été vendu 2 francs. Et je peux pas vous expliquer ce fauteuil qui symbolisait ma sœur, ce qui symbolisait le foyer, la douceur de la nouvelle venue, devoir vendre. Et puis, le plus cruel de tout, c'est l'indifférence dans laquelle tout ça se déroule. Tous ces gens qui se mettent à manipuler des choses qui sont sacrées puisqu'elles sont vôtres, puis qui foutent le camp comme ça, et qui n'ont plus qu'une espèce de valeur marchande minable. Et ça, je me suis juré à ce moment-là, je reviendrai et je serai riche.
L'image de la vente du petit fauteuil en osier de sa sœur ne quittera jamais Frédéric Dard. C'est même, dira-t-il à la première image, qui s'impose quand il retourne dans le Dauphiné. Quand il se souvient de son enfance, il se rappelle une certaine sévérité pour les choses qui comptent et beaucoup d'amour pour tout le reste. Mais le petit Frédéric a quelqu'un d'autre dans sa vie. Celle qui le garde quand ses parents travaillent, celle chez qui il va en vacances, bonne maman. Bonne maman, c'est Claudia, la grand-mère paternelle, qui à coup sûr sait faire les confitures. Claudia est petite par la taille, mais grande par le bagout. Elle est une divorcée qu'on montre du doigt, mais surtout une lectrice vorace. On la surnomme d'ailleurs Madame Larousse. Et son petit-fils lui voue un véritable culte pour cela.
Elle me lisait des livres. Hein. Elle me lisait, mais on lit à un gosse pour l'endormir. Mais elle m'a rendu insomniaque. Je veux dire que quand je m'endormais, au lieu de baisser la lumière, la voix d'abord et puis la lumière ensuite, elle me secouait puis elle continuait de lire. Et alors, progressivement, elle m'a rendu insomniaque. Je m'endormais à 2h du mat. Moi. Je suis absolument convaincu que c'est d'elle que vient ça. Elle a planté, vous voyez. Elle a gratté la terre, elle a mis la graine.
Et est-ce que vous tartiniez déjà?
Très vite, j'avais envie d'écrire, de composer. Je veux dire qu'avant de savoir écrire, j'ai écrit. J'ai tracé des mots parce que je savais qu'ils étaient porteurs de merveilleux, que le merveilleux passait par ça, quoi, que c'était la clé.
Quand Frédéric a 16 ans, la famille déménage à Lyon. Un oncle le présente à Marcel Granchet, un peu écrivain, un peu notable, un peu patron de presse, avec son hebdo Le Mois à Lyon. C'est là que tout commence pour le jeune Frédéric Dard. Sans Marcel Granchet, il n'y aurait pas eu la suite, les San Antonio, le succès. Et sans le succès, il n'y aurait pas eu l'enlèvement de Joséphine. Dans la maison de Vendeuvre, la journée du 23 mars file lentement, sans nouvelles du ravisseur. Le temps paraît vouloir mettre les Dards au défi, faire monter leur angoisse, rendre insupportable l'absence de Joséphine et surtout l'attente d'un coup de fil. Jusqu'au moment où le téléphone sonne, enfin. Il est 21h45, une conversation s'engage.
T'as eu une mère, non?
Écoute, je risque peut-être de me sentir.
Mais écoute, mais pourquoi? Mais du pognon, mais je te le donne le pognon, mais rends-moi ma gosse, merde.
Si tu m'as donné le pognon, je te rends.
Mais je te le donne le pognon, mais prouve-moi que ma gosse est vivante d'abord. Hein?
C'est la réponse de ma sœur, je la trouve.
Mais je t'en supplie, écoute, lui fais pas de mal.
Je ne lui fais pas de mal, je te dis.
Tu me le jures?
Je te le jure.
Hein?
Je te le jure.
Mais vraiment? Mais écoute-moi. Mais écoute, je te jure. Tu t'en fous sûrement des sentiments, mais je te le dis quand même, merde, je suis un père. Cette môme, c'est toute ma vie. Me fais pas un mauvais coup avec elle.
Je t'assure.
Écoute, on est des hommes, on n'est pas des bêtes, on est des hommes, grand.
Frédéric Dard tente de faire durer la conversation, mais l'appel ne peut être localisé. Quand le kidnappeur raccroche, l'angoisse remonte. Et l'attente reprend. Elle dure 36 heures. Il faut bien imaginer ce que signifient ces 36 heures. Le couple n'a le droit de dire à personne ce qu'il se passe. Quand quelqu'un appelle, il faut écourter, sans paraître paniqué. Alors on invente. Quand l'interlocuteur vous trouve une drôle de voix, vous lui répondez... Dispute dans le couple, possible séparation, enfin n'importe quoi d'autre, pour couper court, parce qu'il faut que la ligne soit libre si jamais le ravisseur de Joséphine se manifeste à nouveau. Au bout de 36 heures, donc, il rappelle. Frédéric reçoit la preuve que sa fille est vivante, et il est sûr que c'est elle. Seule Joséphine peut savoir ce qu'il y a d'écrit sur sa trousse de collégienne. C'est un immense soulagement, bien sûr. Mais maintenant commence une autre épreuve. Se conformer aux exigences des kidnappeurs.
T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau, t'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Vu que t'es né que dans ma tête et que tu vis dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, depuis le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente, ne pas te voir j'en crève, mais je te sens dans mon ventre. Le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis. Au moins toute une semaine, ça sera dur, mais tant pis. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, que tu sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien, tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin. Et je connais pas ta mère, je la cherche en vain. Je connais que la misère d'être tout seul sur le chemin. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, dans un coin de ma tête, y a déjà ton trousseau. Un jean, une mobilette, une paire de Santiago. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai des gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu laveras pas les pognes avant de venir à table. Et tu me traiteras d'ivrogne quand je piquerai ton cartable. Je t'apprendrai mes chansons, tu les trouveras débiles. T'auras peut-être bien raison, mais je serai vexé quand même. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, allez viens mon Pierrot, tu seras le chef de ma bande. Je te refilerai mon couteau, je t'apprendrai la truande. Allez viens mon copain, je t'ai trouvé une maman. Tous les trois ça sera bien, allez viens, je t'attends. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot,
vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'enlèvement de la fille de Frédéric Dard.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Dans la nuit du 25 mars 1983, après un nouveau coup de fil du ravisseur, Frédéric Dard s'installe au volant de sa Maserati Quattroporte. Sur le siège passager, un sac plastique contient 2 millions de francs suisses. Heureusement, la somme était sur le compte du romancier et un ami banquier a rouvert son agence le soir pour décaisser les 2000 billets de 1000 francs. Le kidnappeur a été clair. Dard doit être seul. L'écrivain a donc refusé l'émetteur dont la police genevoise voulait l'équiper. Petite entourloupe policière tout de même, un agent casse un feu arrière de la voiture pour que celle-ci soit plus reconnaissable, plus facile à prendre en filature. Frédéric Dard s'arrête à 3h du matin dans le village de Russin, à quelques kilomètres à l'est de Genève, devant une cabine téléphonique. « C'était un jour de mars tellement horrible, dit-il. Un jour de mars où soufflait l'épouvante dans mon âme. » De nouvelles instructions l'emmènent alors à quelques kilomètres de là, au bord du Rhône, près du barrage de Verbois.
J'aimerais vous dire, ça fait quand même une drôle d'impression parce que vous savez pas sur quoi vous allez tomber, hein. De s'enfoncer dans un bois, mais vraiment dans un endroit perdu à 14h du matin avec 2 millions de francs suisses dans un sac. Vraiment, mais j'avais aucune crainte parce que une seule chose me portait, c'était ma vie.
Alors il s'approche d'une voiture, celle que lui a décrite le ravisseur. Attaché à la portière, il y a une sorte de tyrolienne dont la corde traverse le Rhône. Tard accroche le sac à un mousqueton et le pousse le long de la corde. Puis le romancier retourne chez lui. Il est censé recevoir dans les 2 heures un appel qui lui donnera l'adresse où est retenue sa fille. Oui, 2 heures. C'est le temps que le ravisseur exige pour compter l'argent. Frédéric Dard se dérit habituellement lui-même comme un émotif, capable de pleurer beaucoup pour pas grand-chose. Mais là, il surprend ses proches. Il est maître de lui, déterminé. Sauf à cet instant précis, quand il rentre à Vendeuvre, car il prend conscience que le kidnappeur a désormais et l'argent et sa fille. Il ne dispose donc plus d'aucun levier. Joséphine n'est pas seule entre les mains du ravisseur, ses parents le sont aussi. On a souvent dit que Frédéric Dard était le double de San Antonio, mais entre les mots tapés sur la machine à écrire et le réel, il y a un gouffre. San Antonio, lui, aurait depuis longtemps fracassé des bouches ou flingué des rotules en froissant à peine son costume et en enrichissant la langue française de nombreux néologismes insultants et infamants. Mais Dard, lui, est un père angoissé qui se demande s'il reverra sa fille vivante. Il n'est plus son héros de papier, né en 1949. Qu'il présente ainsi dans le premier ouvrage de la série. Si un jour votre grand-mère vous demande le nom du type le plus malin de la Terre, dites-lui, sans hésiter, une paire de minutes, que le gars en question s'appelle San Antonio. Eh bien, je peux vous garantir que la chose est exacte, étant donné que le garçon en question, c'est moi. Je dois vous donner des détails indispensables sur ma petite personne. Si je ne suis pas le sosie d'Apollon, je n'évoque pas non plus un tableau de Picasso. Ce premier roman, c'est « Règle-lui son compte », où il est question d'un commissaire qui a refusé de collaborer pendant la guerre et qui démantèle un réseau en flinguant des méchants et en faisant monter au 7e ciel toute une galerie de jolies femmes. Ce qui restera la trame des 174 autres San Antonio. Tiens, pourquoi ce nom-là d'ailleurs? Le journaliste de France Culture, Jean-Louis Hézine, pose la question en 1988.
Je cherche un nom de... Enfin, consonance anglaise, je prends un atlas américain et je choisis San Antonio. Cherchant un mot, enfin, typiquement américain. Hein,
ah oui.
Spring Valley ou je sais pas quoi.
Ah non, oui, d'accord. Signé,
et je suis fasciné par San Antonio.
Si bien que vous auriez pu aussi bien vous appeler Niagara Falls.
Ah, ou, mais tout à fait. Ou, ou je sais pas, Nashville.
Dard a 28 ans quand paraît le premier San Antonio. Oh, tirage modeste, hein, 3000. Et vente encore plus, à 2400. L'édition originale vaut aujourd'hui 1 500 €. Mais donc, en cette année 49, Dard passe à autre chose et signe plusieurs adaptations théâtrales. Celle d'un Simenon, par exemple, intitulée « La neige était sale ». Et ça marche. La famille Dard s'installe au Mureau, en grande banlieue parisienne, pas loin de la Seine où Frédéric emmène promener Patrice et Elisabeth, ses 2 enfants. Mais l'insuccès du premier San Antonio ne refroidit pas un éditeur qui se lance. Il a 30 ans. Il s'appelle Armand de Caro et il vient de créer les éditions Fleuve Noir et de signer 2 jeunes romanciers prometteurs capables de pisser la copie. Michel Audiard, qui fait déjà du Audiard, et Jean Bruce, qui lance une série d'espionnage OSS 117. À force d'insister, Caro obtient de Dard qu'il se remette au San Antonio. Et immédiatement, il y a le rythme. 4 ou 5 livres par an. Devant sa machine à écrire, Dard se goinfre de mots. Il est boulimique du vocabulaire, pantagruélique de l'expression.
Je suis un fou d'écriture, je suis un boulimique de ruban machine, quoi. C'est terrifiant. Tous les matins, je me lève très tôt, le premier, comme toujours, et puis je me jette sur cette machine et je lui fais l'amour jusqu'à 1h de l'après-midi. Il m'est arrivé 2 ou 3 fois de me faire un plan, d'essayer de construire une histoire et puis de tenter de lui être fidèle, ce qui n'est pas commode. Hein. Et j'ai souffert 1000 morts et je me suis ennuyé à l'écrire. Moi, il faut que je me surprenne. Je mets la feuille blanche, je me raconte une histoire. Alors là, je prends un panard superbe. Mais si je commence à dresser la nappe, le couvert, etc., là, ça va plus.
Quand cet érotomane du mot écrit à San Antonio, il pense déjà au suivant et à celui d'après. Son imagination est sans limite. Elle rappelle celle du petit garçon qu'il était. Dans son livre « Frédéric Dard, qui suis-je ?», paru en 85, Louis Bourgeois estime à 15 millions le nombre de mots tapés par le romancier, dont 10 000 entièrement nouveaux. Oui, Dard invente. Il invente « gesticrier » par exemple, qui signifie « gesticuler en criant ». Il bouscule la langue. Un vicieux devient par exemple un misloc. Ou alors il la triture, comme dans cette phrase « c'est soi-même qui vient m'ouvrir ». Ah, il y a des aphorismes aussi, comme « s'aimer, c'est se devenir indispensable ». Et il y a les éléphants langagiers dans un magasin de dictionnaires. Les outrances sont portées par Alexandre Benoît Berruerier, qui apparaît dans le 7e San Antonio, celui qui correspond d'ailleurs à une hausse des ventes. Berruerier, dit Berru, ou le gros, dit l'ignoble, est un sanglier qui ravage le jardin bien tenu. Dard massacre la concordance des temps, tel un pianiste jouant le boléro avec des moufles. Et il éructe comme s'il était le syndrome de Gilles de la Tourette personnifié. Avec ce personnage obèse, sous le graphe sale, gueulard et priapique, Dard exulte. Les premiers San Antonio, questions intrigues, se tiennent encore, oui, avant de sombrer dans un n'importe quoi jubilatoire que les lecteurs plébiscitent. En 1964, l'histoire de France vue par San Antonio avec 1 million d'exemplaires est le livre le plus vendu de l'année. Ce qui peut en agacer certains, comme ce journaliste de l'ORTF en 1965.
San Antonio, 300 000, 350 000 exemplaires, un prix Goncourt, 100 000 exemplaires, l'académicien, 100 000 exemplaires aussi. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est extraordinaire de vendre plus de livres, disons, que Mauriac, Conchon, Monroy, Cesbron, pour ne citer qu'eux ?
Non, pas du tout. D'abord, M. Mauriac, par exemple, puisque vous l'avez cité, fait partie de l'Académie française et il est plus probable qu'il n'en fait jamais partie. Donc, il a d'autres
satisfactions. Mais vous n'êtes pas gêné de vendre plus que Cesbron, que Mauriac, que Monroy ?
Mais pas du tout. Si quelqu'un doit être gêné, c'est le public, c'est pas moi.
Évidemment, ce n'est pas le même public. Est-ce que ça ne se reproduit ?
Ah, écoutez, là, je vous arrête. Dans une certaine mesure, c'est le même public. Et je me demande même si on lit pas San Antonio pour se reposer de Mauriac, quelquefois.
Pourtant, tout ne va pas si bien dans la vie de l'écrivain. Son mariage, pas heureux. Dard tente de se suicider dans la nuit du 28 au 29 septembre 65. C'est Odette, sa femme de l'époque, qui le découvre dans les combles de la maison des Mureaux. 10 heures de coma, 15 jours d'hôpital et un malaise qui dure. Parce que Frédéric Dard est amoureux pleinement de Françoise de Caro, la fille de son éditeur. Odette et lui divorcent, puis Françoise et lui se marient. S'installe en Suisse en 1969. Et puis arrive Joséphine, l'année d'après. Mais aujourd'hui, les parents angoissés attendent toujours d'avoir des nouvelles de leur fille enlevée. Eh bien, c'est à 6h du matin, ce 25 mars 83, que le ravisseur appelle. La petite est enfermée dans une caravane dont il donne la localisation dans la campagne genevoise. Les policiers y vont dardard. Mais une fois sur place, pas de Joséphine. Et les recherches alentour ne donnent rien. Où est l'adolescente ? Pas loin de là, en vérité. Pendant que le ravisseur récupère la rançon, Joséphine est seule dans la caravane. Plus tard, elle racontera. J'ai donné un coup de pied dans la porte et je suis partie. Je me suis dirigée au hasard vers un bois. J'ai marché longtemps. Je tombais dans la boue. J'étais très faible. Je suis arrivée sur une route de campagne. Une voiture s'est arrêtée et le conducteur m'a emmené dans un bistrot. C'est dans ce café du canton de Genève que la police récupère Joséphine et l'emmène à l'hôpital. Quelques heures plus tard, sa mère, Françoise, accepte une interview de la TSR.
Elle est complètement droguée, elle a des piqûres dans les bras, je sais pas, au moins 25 dans les bras, les mains, les pieds. Elle a les yeux absolument rouges parce qu'elle a eu des problèmes de... Elle n'a pas supporté le...
Ah oui, c'est
le,
ça.
Le chloroforme. Oui. Alors, elle a des yeux absolument rouges et puis elle a les bras noirs de bleu.
Parce qu'on l'a piqué pour la faire tenir oui. tranquille, si oui. je comprends bien.
Oui. Oui. Et puis, enfin, à l'hôpital, ils m'ont complètement assuré, disant que bon, c'est des hématomes, les veines ont claqué, mais c'est pas très, très.
Oui.
C'est pas vraiment important, quoi, voilà.
Le 26 mars, quand la presse publie le récit de l'enlèvement de Joséphine, une femme sursaute. 2 jours avant, elle flirtait avec son petit copain dans une voiture. Très bien, tant mieux pour eux. Mais à un moment, les deux voient un homme portant un masque de François Mitterrand sortir de la cabine téléphonique juste devant eux. Bon, ça leur paraît tellement bizarre qu'elle note sur son paquet de cigarettes la plaque d'immatriculation de la voiture dans laquelle monte l'inconnu masqué. Le 26 au matin, en entendant les informations, elle appelle la police. La voiture en question appartient à un cadreur de la télé suisse, Édouard Boisdechêne. Le profil fait d'abord douter les enquêteurs. Père de famille modèle, collègue apprécié, homme sans histoire, ce Boisdechêne. Sauf que ce type de 47 ans était frustré, persuadé d'avoir du talent, mais aigri de ne pas être reconnu. Et puis il y a le salaire aussi, hein, pas fameux, sa famille mérite tellement mieux. Alors, durant 12 ans, il cambriole 34 fois. D'ailleurs, la police va découvrir chez lui, dans sa maison entre Genève et Lausanne, toutes les preuves nécessaires, ainsi que les 2 millions versés pour Joséphine. L'enlèvement était censé être son gros coup, le dernier, celui qui mettrait sa famille à l'abri. Il avait d'ailleurs établi une liste d'une centaine de cibles potentielles, sur laquelle ne figurait pourtant pas le nom de Frédéric Dard. En fait, c'est le hasard qui a fait le kidnapping de Joséphine. Quelques semaines avant le rapt, l'écrivain accepte de prêter à un musée certaines toiles de Domenico Nuoli, un peintre italien qu'il apprécie particulièrement. La télé suisse veut faire un reportage chez lui. Alors, il ouvre sa maison à l'équipe, dont Boisdechêne tient donc et le caméraman.
Il venait pour tourner des tableaux dont il savait qu'ils avaient de la valeur. Comme le réalisateur qui faisait ça est un copain, il me parlait, je devais aller en Espagne le lendemain, t'es content de ton appartement de Marbella? Tiens, il a un appartement à Marbella, et ta ferme où on a tourné tel truc. Ah tiens, il a une ferme. Et il m'a jaugé, il m'a estimé. Il s'est dit, bon, c'est un mec qui... Et alors, surtout, il a dit, j'aurais dû en être flatté, il a dit que c'était à cause de ma bonne gueule qu'il s'est décidé. Il a dit parce qu'il avait l'air d'aimer sa fille, et j'ai compris qu'il ferait pas d'histoire pour payer. Et il a vu ma fille. En repliant son matériel, tout ça, il a instantanément dit, c'est là.
Dans les jours qui suivent, la famille d'Art s'envole pour l'Espagne, comme pour tenir les mauvais souvenirs à distance. Un garde du corps est embauché. Joséphine ne peut plus dormir seule. Et au pied de son lit, veille un chien. Le romancier décide de vendre ses toiles. Elles ont déclenché le malheur, dit-il. Le procès d'Édouard Boisdechêne s'ouvre en 1984. En octobre, pour être précis. Frédéric et Françoise y assistent, pas Joséphine. Après 2 semaines d'audience, Boisdechêne est condamné à 18 ans de prison. Frédéric Dard répète qu'il n'a pas de haine envers cet homme, que du mépris. Avec papa, dira Joséphine des années plus tard, au Dauphiné libéré, je n'en ai jamais parlé. Ah, c'est impossible. Il a été très fort pendant l'enlèvement, puis il s'est écroulé comme s'il avait attiré le malheur sur la famille. Mais même si San Antonio a attiré le malheur sur Frédéric Dard, l'écrivain n'a jamais tué son personnage. Il aurait pu. Il ne l'a jamais délaissé ou abandonné dans un tiroir fermé ou dans un grenier poussiéreux. Dard se remet même à sa machine à écrire. Pour finir son roman, faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches? Ce manuscrit, ce fameux manuscrit qui a attiré la foudre avec cette histoire d'enlèvement. Dans le magazine Le Point, en 2021, Éric Bouillet, auteur du dictionnaire amoureux de San Antonio, écrit « Le romancier a repris le pas sur le bonhomme meurtri, sur le père déchiré. » Alors, le rythme infernal reprend. Levé tôt, écriture, 400 Antonio par an. Mais à partir des années 90, les ventes se tassent. On parle tout de même de 200 000 exemplaires vendus à chaque sortie de l'un de ses livres. Bien des écrivains sabreraient le champagne pour 10 fois moins. Mais, comme le dit le romancier, on cesse toujours d'avoir été le numéro 1, mais on ne cesse jamais d'avoir été le premier. Et puis, même si les chiffres et quelques honneurs pouvaient flatter Frédéric Dard, son plaisir n'était pas là, non. Il écrivait pour divertir, pour détourner l'attention d'un monde que lui, le mélancolique assumé, n'aimait pas plus que ça.
J'écris pour divertir, j'écris par besoin, j'écris par goût des mots, par soif des mots. On cible pas un public. Si on dit je vais écrire pour les curés, bon ben on fait la vie de Bernadette. Si on écrit pour les médecins, on fait l'histoire de la chaude pisse à travers les âges. Mais si on veut écrire je sais pas, pour tout le monde. On va pas se mettre à penser à telle ou telle catégorie. Je veux dire, j'écris ce qui me vient. J'écris avec l'intention, premièrement, de divertir. Avant tout, de divertir. Parce que ça commence par ça. Ne jamais emmerder les gens.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'enlèvement de Joséphine, fille de Frédéric Dard, dont nous parlons avec notre invité Éric Bouillet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes médecin, ancien de MSF, vous avez participé à la naissance du SAMU social, et vous êtes là, pas pour nous parler du SAMU social, mais de Frédéric Dard, dont vous êtes un admirateur et un spécialiste, et vous avez publié la preuve, le dictionnaire amoureux de San Antonio, paru en 2017 chez Plon. Vous avez remarqué que nous avons passé la chanson de Renaud Pierrot, comme Frédéric Dard, amoureux de mots, des mots, je crois qu'il s'aimait bien, qu'il se connaissait, et grand ami, très bien. Alors, vous, dans quelles circonstances avez-vous rencontré San Antonio,
je dis bien.
San Antonio.
Oui. C'est le syndrome du pot de confiture. J'ai trouvé ça caché dans la bibliothèque de mon père. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Et ce qui m'a sidéré, c'est que j'ai ri. J'ai ri jusqu'au fou rire. Et je ne savais pas. J'aimais bien lire, hein, mais j'étais nourri au Lagarde et Michard de l'époque, et je savais pas qu'on pouvait rire avec des romans. Et donc ça a été la première découverte, qui s'est reproduite au deuxième, au troisième, et puis assez rapidement quand même j'ai compris que au-delà de la gaudriole, au-delà des personnages truculents, de ce langage incroyable, il y avait une réflexion très très profonde sur ce que nous sommes, sur la condition humaine. Et petit à petit, j'ai découvert des romans philosophiques, des romans humanistes, et je parle bien des San Antonio.
Alors, justement, Frédéric Dard a dit et écrit qu'après l'enlèvement de sa fille, son écriture avait changé. De votre point de vue, qu'est-ce qui a changé, si vraiment ça a changé ?
Oui, c'est peut-être un petit peu difficile à dire. Il a tellement réfléchi sur la condition humaine. Il a traqué la bêtise humaine pendant 50 ans. Je ne sais plus.
Il y a de quoi faire.
Oui, et c'est d'actualité. Quand on le relit, je peux vous dire que c'est tout à fait d'actualité. Je ne sais plus qui disait. Si vous voulez comprendre la deuxième partie du XXe siècle, il suffit de lire tous les San Antonio. Qu'est-ce qui a changé dans son écriture ? Il était assez désespéré sur l'homme et passionné par l'homme aussi. C'était même si c'est un peu ambigu.
Non,
et je crois qu'il a créé des personnages après cet événement de plus en plus cyniques, de plus en plus cruels. Je crois que la différence, elle est là.
À l'image du monde ?
Oui, à l'image du monde et de ce qu'on venait de lui faire.
Qui a été
un traumatisme absolument terrible.
Grâce à l'association des Amis de San Antonio, dont vous faites partie, vous faites la connaissance de Patrice, le fils, et de Joséphine, la fille de l'écrivain, dont nous avons parlé tout au long du récit. Vous êtes devenu ami avec Joséphine, je crois ?
Oui, bien.
Et je voulais revenir avec vous sur l'enlèvement et sur un point particulier. Dans une interview, Joséphine déclare « Après l'enlèvement, mon père et moi n'en avons jamais reparlé. » Pourquoi, selon vous ? La culpabilité ?
Écoutez, c'est difficile de répondre à leur place. Je pense que le traumatisme a été présent pendant des années et des années. L'événement, il était omniprésent, il n'y avait probablement pas besoin d'en parler. Il faudra attendre, après la mort de son père, je ne sais plus très bien quand, peut-être une dizaine d'années après, Joséphine a quand même surmonté ce drame terrible et a commencé à en parler dans la presse, quand on l'a interrogé. Quant à son père, vous l'avez dit, il y a cette histoire de ce livre incroyable, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la littérature. Il faudrait que je vous le détaille même. Et lui, il a surmonté, si on peut dire, ce traumatisme comme peut surmonter un écrivain en écrivant la suite de ce livre dont il avait imaginé tout le début jusqu'à l'enlèvement avec des détails invraisemblables. Quand il parle, c'est vraiment une prémonition, une prescience incroyable. Et où il est très fort, où c'est génial, c'est que il a écrit la fin du livre, mais il n'a pas écrit ce qui s'était passé, bien sûr. Il a inventé une autre sortie. Et ça, il faut lire ce livre pour ça, pour voir ce que c'est que le génie de l'imagination.
Et donc c'est aussi une thérapie par l'écriture.
Oui, sûrement. Mais toute sa vie a été une thérapie par l'écriture. Je peux vous parler de tout un tas d'obsessions qu'il avait, notamment la mort. Il était obsédé par la mort et il a, je pense, surmonté cette obsession par l'écriture.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Éric Bouillet, vous me parliez des obsessions de Frédéric Dard. On a cité la mort.
Ouais.
Et quoi d'autre ?
L'écriture. C'est un obsédé textuel. Et sur la mort, c'est curieux. Quand on voit les 50 premiers Frédéric Dard et San Antonio, vous avez le mot mort ou morgue ou macabé dans un titre sur deux.
Ouais, c'est vrai.
Et vous parliez de sa grand-mère avec qui il a beaucoup vécu.
Bonne maman.
Bonne maman. Claudia, il a vécu 6 ans avec elle quand il avait de 6 à 12 ans. C'est une femme austère, tout en noir. Le soir, elle le faisait dormir dans une turbulette, vous savez, où on ne pouvait même pas sortir les mains, cette espèce de sac. Oui, oui. Il a dit plus tard, j'avais l'impression de rentrer dans un suaire.
Bah oui, c'est ça. Voilà.
Et donc, il va mettre longtemps à surmonter ça par ses écrits et puis en faisant la connaissance de Monseigneur Mamie, qui était l'évêque de Fribourg, avec qui il va devenir très ami, il va avoir des conversations, il va même écrire un livre avec lui qui s'appelle « D'homme à homme ». Et la réflexion sur Dieu, qui arrive aussi dans les San Antonio assez régulièrement, va l'apaiser, je pense, beaucoup.
Parlons de Berruyer.
Oh ben Berruyer.
Alors, pourquoi vous l'aimez Berruyer ? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ?
Ben parce que c'est une caricature extraordinaire. On peut pas être des Berruyers, on est tous des Berruyers, on est tous un peu des dégueulasses, on est tous un peu comme ça. Mais lui, il a porté ça à une telle dimension de caricature. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que c'est impossible à porter au cinéma. Ça l'a été 3-4 fois, mais ça n'a aucun intérêt. On ne peut pas porter les San Antonio et encore moins Berruyer au cinéma. Et donc, voilà, c'est un personnage franchouillard qui nous ressemble, auquel on ressemble par beaucoup de côtés.
Ah oui.
Oui, oui, bien sûr, faut oser s'avouer ça, quoi.
Ah oui. Bon, j'aimerais maintenant qu'on parle de l'héritage de Frédéric Dard, de son héritage littéraire, évidemment. De son vivant, il y a eu des colloques, des rencontres universitaires qui lui étaient consacrées. Aujourd'hui, on a l'impression que l'écrivain n'est pas oublié, ce serait exagéré, mais qu'il n'est pas dans le panthéon des écrivains qu'on fréquente parce que c'est classe.
Oui, alors il y a plusieurs aspects. Il y a l'histoire des colloques, des universitaires qui ont créé dès 1965. Escarpie à Bordeaux a fait un premier colloque qui s'appelait le Phénomène San Antonio, auquel ils ont invité Frédéric Dard. Jusqu'à une période plus récente, en 2010 par exemple, à la Sorbonne, le département de langue française de la Sorbonne a consacré 3 jours de colloque sur le San Antonio et la littérature française. Et alors, la deuxième partie de votre question, c'est pourquoi on l'oublie ? En tout cas, les jeunes générations l'oublient.
Oui, alors, pas oublié complètement, mais c'est vrai que le souvenir, c'est filoche un peu quand même. Hein.
Ah, mais beaucoup. J'interroge souvent des gens de moins de 40 ans qui ne connaissent même pas le nom de San Antonio ou de Frédéric Dard. Pourquoi ? Ben, on se pose beaucoup de questions. Ça tient aussi à l'époque, à la perte de l'intérêt pour la lecture. Si je ne parle que de la littérature populaire. Je pense que les jeunes connaissent le nom. Est-ce qu'ils ont lu ? J'en sais rien. Mais ils connaissent le nom de Simenon, d'Agatha Christie et d'Arsène Lupin, mais peut-être pas de Maurice Leblanc, parce qu'il y a des séries télé, tout simplement. Et Frédéric Dard, il n'y a malheureusement pas de séries télé. Mais je suis assez optimiste, parce qu'il y a une trentaine de romans qui ont été portés au cinéma dans les années 60, sur ce qu'on a appelé les romans de la nuit. Ce sont des Frédéric Dard, qui sont des scénarios formidables, avec des personnages, des psychologies complexes et on pourrait monter 30 téléfilms sans aucun problème sur ces scénarios.
Alors ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on le décrit par ailleurs et dans la presse plutôt comme classé à droite, alors qu'il avait un respect très fort pour François Mitterrand, qui d'ailleurs le lui rendait bien. On l'accuse de vulgarité quand il ne faisait que jouer avec les mots grossiers finalement. Comment expliquer ce décalage ?
Oui, je pense pas qu'il avait d'opinion politique bien arrêtée. Il avait plus des opinions, ou en tout cas un intérêt pour les hommes. Mmh. Et les hommes de culture, comme l'était François Mitterrand, ça l'impressionnait beaucoup. Et donc c'est plus cet aspect qui ressortait. Il a même écrit 4 San Antonio dans lequel il y a François Mitterrand, dont un qui s'appelle Ah, j'ai un trou de mémoire.
Vous êtes pardonné.
Après vous, Monsieur le Président, s'il en reste quelque chose comme ça. Et quand il a rencontré François Mitterrand pour la première fois, François Mitterrand gentiment lui a dit « Frédéric Dard, vous auriez dû venir me voir avant. J'aurais pu corriger certains détails que vous donnez sur ma vie dans vos romans. » Mais ça l'avait beaucoup amusé.
Alors, il a fait une formidable série d'entretiens avec Jean-Louis Aisine, qui est aussi une belle plume, hein, Jean-Louis Aisine, ouais. Qui vient de sortir un nouveau roman. Il y a toujours de l'autobiographie, hein, quand il raconte sa vie, c'est absolument formidable. Bref, il surprend, en étant capable de citer les chiffres des ventes, pas Aisine, d'art, ouais. En étant capable de citer les ventes de tel ou tel San Antonio, tout en se disant un peu détaché de ça. De la même façon, il rejette les honneurs et les prix, mais on sent quand même flatté, hein, qu'on s'intéresse à lui. C'est tout le paradoxe du bonhomme.
Bah, paradoxe oui et non, parce que il a écrit son premier livre à 17 ans, avec une ambition littéraire extraordinaire. Vous en parliez d'ailleurs, vous en parliez sur son enfance, comment il a été amené à la lecture. Il a eu un prix Lugdunum à Lyon à 20 ans pour son deuxième roman, et donc il pensait faire une carrière littéraire pour aller, je ne sais pas où, jusqu'au prix Nobel, hein. il n'y avait pas de limite. Et puis la vie a fait que toute sa vie, il aura été édité pour son bonheur et un peu aussi pour son malheur d'écrivain au Fleuve Noir. Mmh. Et Fleuve Noir, c'est du roman populaire.
Bien sûr.
C'est des romans de gare avec ce que ça peut avoir de péjoratif aussi de temps en temps. Et lui qui aurait adoré être chez Gallimard, eh bien, il est passé à côté. Je peux juste vous dire quand même que Claude Durand, qui était le... Pas n'importe qui, Claude Durand, c'est l'équivalent de Gallimard, c'était le patron de Fayard, ouais. Un grand, grand monsieur de l'édition, vers la fin de la vie de Frédéric Dard, dans les années 95, l'a contacté parce qu'il était en admiration devant l'œuvre de San Antonio et de Frédéric Dard, pour reprendre les droits. Ils ont passé un repas, je vous donne juste ce détail, ensemble, et à la fin, Claude Durand lui a dit « Frédéric Dard, vous n'êtes pas un écrivain, vous êtes un très grand écrivain. » Venant de l'homme qui avait sorti en France Garcia Marquez, traduit et sorti Garcia Marquez et Solzhenitsyn, ça avait une valeur.
100 ans de solitude et l'archipel du Goulag.
Oui. C'est Fayard, ça, c'est Claude Durand.
Ouais. Et il nous reste 30 secondes. Vos San Antonio préférés. Alors, c'est quoi votre panthéon? Vous avez bien un panthéon?
Oui, j'en ai un qui s'appelle Les cochons sont lâchés. Les cochons sont lâchés, rappelez-vous, il a été réédité très récemment. Ouais. Eh ben, je vais vous étonner, c'est le seul sur les 183 où San Antonio n'est pas présent.
Qu'y a donc ?
Incroyable.
Mais
il est en mission et c'est Berrurier et Pinault qui mènent la danse et c'est un monument de rire.
Rappelez-moi ce titre.
Les cochons sont lâchés.
Je note, Les cochons sont lâchés. Merci infiniment, Éric Bouillet. Au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'enlèvement de la fille de Frédéric Dard, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. Aujourd'hui à la technique, il y avait Roland May.